Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Chers auditeurs, pour Antiquissimo, dans Antiquissimo, nous nous sommes déjà souhaité la bonne année. Il est temps aujourd'hui de souhaiter la bonne année à mon invité du jour, Claude Aziza. Bonne année.
Eh ben, bonne année à vous aussi.
Alors, l'année forcément sera bonne, cette année 2026, puisqu'elle commence fort bien avec la parution d'un tout nouveau livre. Et pourtant, on pourrait croire que ce n'est pas un nouveau livre, puisque c'est un livre augmenté, complété, mais par rapport au livre paru en janvier 2021 qui s'appelait déjà Pompéi, promenades insolites. Mais vous allez nous expliquer ça tout de suite, Claude Aziza. Vous avez éprouvé le besoin de revoir ce projet et d'y ajouter beaucoup de choses, puisque le livre désormais s'appelle Pompéi, Herculanum et les cités du Vésuve. Ce livre sort le 16 janvier, donc c'est du peu. Et j'ajoute tout de suite que le 17 janvier à Nîmes, au Musée de la Romanité, de 14h30 à 16h30, il y aura une séance de dédicace organisée à la librairie du Musée de la Romanité. N'est-ce pas, Claude ?
C'est cela, oui.
Donc, on va parler bien sûr de ce beau projet, de ce beau livre que j'ai sous les yeux. J'ai cette chance en avant-première. Mais avant, peut-être que c'est avec une certaine tristesse, en tout cas nostalgie, qu'il faut rendre hommage à Brigitte Bardot, parce que nous avons déjà eu en plusieurs émissions consacrées au péplum dont vous êtes le spécialiste, nous avons déjà parlé de Brigitte Bardot de ces deux péplums dans lesquels elle a tourné. Mais j'aimerais que vous nous en disiez un petit mot, histoire de lui tirer un coup de chapeau.
Oui, Brigitte Bardot, outre les films très connue, bien sûr, qu'elle a tourné deux péplums et deux westerns. Alors, on ne parlera ici que des péplums, et c'est très amusant parce que la même année, 1956, elle a tourné ces deux péplums. Et après, elle ne les a plus tournés. Sauf qu'elle les a tournés avec deux statuts différents. Le premier, elle est une figurante, quasiment, et dans le second, elle est une vedette à part entière. Je m'explique. Alors, le premier, c'est un film qui sort en janvier 1956. Le réalisateur s'appelle Robert Wise. On le connaît plus par West Side Story que par les films historiques. Il s'appelle Hélène de Troyes, avec une distribution prestigieuse.
Mais elle a un petit rôle, là.
Oui, elle a un petit rôle. Elle joue le rôle d'Andrasté. C'est la suivante d'Hélène de Troyes, et c'est elle qui va sur la plage trouver, à la suite d'un naufrage, il est là étendu, le beau Paris qui est joué par Jacques Cernas.
Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacés.
Voilà. Ça, c'est un très beau péplum, mais on la voit très fugitivement. En revanche, cette même année 56, simplement, on est en septembre 56, en Italie. Le film ne sortira qu'en octobre 57 en France. C'est un film de Steno. Alors Steno, c'est un réalisateur, c'est un pseudonyme, hein. C'est un réalisateur de comédie italienne. Et il fait un film qui s'appelle Les Week-ends de Néron. Et à notre grande surprise, alors une distribution prestigieuse.
C'est très drôle, hein. C'est un film très très drôle.
C'est un film très drôle. Vittorio De Sica joue le rôle de Sénèque, Alberto Sordi fait Néron, Gloria Swanson qui terrorise tout le monde, c'est Agrippine, et Brigitte Bardot joue Popée. Et elle est
une Popée femme-enfant, hein.
Oui, une Popée femme fiancée à Néron qui est pas contente du tout, et c'est ça qui est amusant, c'est que elle est troublée par un concert d'animaux que fait jouer Néron. Et alors, on dit à ces animaux, ça sent mauvais, etc. Quand on pense à ce que sera l'amour futur de Brigitte Bardot pour les animaux, on ne peut s'empêcher de rire. Alors, dans Les Week-ends de Néron, en fait, c'est sur le mode bouffon,
c'est loufoque,
l'assassinat d'Agrippine par Néron.
Oui.
Et la tentative d'Agrippine. d'écarter Popée, oui. D'écarter Sénèque. Alors, c'est délirant comme film, et vraiment, il me faudrait des heures pour en parler.
On peut les voir sans problème.
Ah, oui, les deux sont en DVD. Il n'y a aucun souci, bien sûr. Il faut voir Les Week-ends de Néron. En plus, c'est tiré explicitement des annales de Tacite. C'est un film, et je m'adresse ici aux survivants des professeurs de latin, pour leur dire que c'est vraiment le film clé qu'on peut passer en classe. Tout y est, quoi.
Très bien, alors notre petite séquence nostalgie se termine, et là on va au contraire ouvrir vers le futur très proche et vers ce livre. Donc je rappelle le titre, Pompéi, Herculanum et les cités du Vésuve, promenades insolites aux éditions des Belles Lettres, bien sûr. Alors la question bête, mais la question que je pose quand même, pourquoi ce livre? Pourquoi avoir éprouvé le besoin de compléter, et c'est pas d'un petit peu, c'est de beaucoup, le livre précédent?
Ben c'est tout simple. Il suffit de lire les premières lignes de la préface. J'ai fait un rêve.
Bon. Voilà. Alors, je vais vous les lire, ces premières lignes, justement. La préface, il y a plusieurs préfaces, la précédente et celle-ci, dans la foulée, j'ai le cas de le dire. Elle s'appelle « Le retour des refoulés ». J'ai fait un rêve. En ce 24 octobre 3079, on commémorait le troisième millénaire de Pompéi. Des milliers de visiteurs se pressaient aux portes de l'immense Pompeiana, parc inclusif de loisirs et de plaisirs. Hommes, femmes, autres, seuls ou en famille décomposée, toutes admiraient le clone de la ville sous sa voûte de pierre, équitable et responsable. Il y avait déjà plus de 1000 ans que la cité antique avait été de nouveau recouverte. Elle devait se trouver quelque part non loin, mais on avait peu à peu oublié où. Aucune importance. On pouvait suivre, dans le parc, différents moments de la vie pompéienne. Au loin, le Vésuve dressait sa fière silhouette. Il ne fumait plus, écologie oblige. Mais on avait dressé sur son sommet quelques plants de lotis et de pavots où chacun pouvait se servir. À l'entrée se dressait une immense statue au visage béatement juvénile, avec au dos une sorte de gypsière, on l'appelait d'un nom mystérieux, la Vestale des Fjords. Partout, sur les murs, des graffitis en fratin, cette langue des temps anciens qu'on n'arrivait plus à déchiffrer. Ici, on pouvait s'offrir un tremblement de terre. Là, une douche de cendres et de scories. Plus loin, prendre coucher un bain de boue. Alors là, on est en plein rêve, effectivement.
Oui.
Et vous donnez le ton de ces quatre nouvelles promenades qui s'inscrivent dans le livre.
Je donne le ton, je donne un des tons de ces nouvelles promenades. Alors, pour essayer d'être un petit peu plus sérieux, je suis allé de surprise en surprise. Alors, les refoulés, bien sûr, c'est les cités du Vésuve qui m'appellent à leur secours et qui disent « Pourquoi pas moi ?»
Et alors, pourquoi pas Herculanum? Et je rappelle que le 21 juin dernier, au Forum du Livre Péplum, vous aviez attiré notre attention sur le fait qu'Herculanum fut la première en réalité.
Voilà, parce que Herculanum, on la découvre en 1738 et Pompéi en 1748, 10 ans plus tard. Alors donc, j'ai voulu, en 4 chapitres, reprendre cette histoire. D'abord, un chapitre consacré à Herculanum, que j'appelle d'ailleurs d'un titre dont on va comprendre, j'espère, l'humour, qui est le premier jour d'Herculanum.
Oui, voilà, à propos et non pas les derniers jours de Pompéi. Donc ça, c'est la 9e promenade dans cet ensemble qui, aujourd'hui, dans le livre entier, en compte en tout 14, maintenant.
Et là, je dirais 16, plutôt.
Ah, d'accord.
Mais peu importe. Et donc là, c'est vraiment la redécouverte d'Herculanum. Bon, comme je l'avais fait pour Pompéi, je me suis dit, on va voir un peu, chercher, puisque personne ne le fait, les productions fictionnelles créées par Herculanum. Et là, j'ai été de surprise en surprise. Parce que finalement, si on réfléchit au fond, la fiction sur Pompéi est à 99% inspirée par les derniers jours de Pompéi.
Oui.
En revanche, j'ai découvert qu'il y avait une fiction poétique en français ou en latin sur Herculanum, des poèmes sans arrêt, des pièces de théâtre, un roman, un seul roman, un seul film, un roman, mais alors, assez extraordinaire, et du théâtre, y compris d'ailleurs, et j'ai été de surprise en surprise, une pièce satirique du marquis de Sade, qu'il compose lorsqu'il est enfermé, qui est l'histoire d'un antiquaire qui aime tellement l'antiquité qu'il force sa femme à accoucher dans les ruines d'Herculanum.
D'accord.
C'est assez extraordinaire, il faut bien dire. Et j'ai donc été de surprise en surprise. Et je ne peux même pas résumer cette riche production fictionnelle tellement elle est énorme, 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 énorme. Donc, plus un opéra qui s'appelle Herculanum de Félicien David, qui a été repris d'ailleurs dernièrement à la Monnaie de Bruxelles. Et donc, je me suis dit, finalement, s'il y a une telle production, on va voir pour le reste. Alors, je voulais développer, et ce sera le quatrième de mes nouveaux chapitres, j'en viendrai au troisième après, je voulais développer ce que j'avais à peine esquissé, c'est-à-dire toutes ces demeures pompéiennes ou pseudo-pompéiennes ou antiques que des princes, des rois d'ailleurs, des milliardaires firent pour les femmes qu'ils aimèrent. Et j'en ai trouvé beaucoup plus que celles qu'on croit, bien sûr, parce qu'on pense toujours à la maison pompéienne de l'avenue Montaigne, mais il y en a bien d'autres, il y en a en Amérique, il y en a partout, donc j'ai insisté sur la description de ces maisons, et puis j'étais très embêté parce que finalement, il me manquait là, Oplontis, Stabiès et Boscoréal.
Donc ces fameuses cités vésuviennes.
Voilà. Et alors là, honnêtement, je ne savais pas comment faire. Et moi, je n'ai pas du tout la fièvre et la fibre romanesque. Hein. Je suis comme Valérie qui disait qu'il ne pourrait jamais écrire la marquise sortie à 5 heures. Donc, j'ai imaginé.
Et ça, c'est donc la 11e promenade, puisque la 9e, c'est les premiers jours d'Herculanum, la 10e dans le temple des Muses, vous venez d'en parler, et là, celle-ci, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission, s'appelle Avec les fantômes d'Oplontis.
Voilà, Avec les fantômes d'Oplontis. Donc, j'ai imaginé une soirée chez Poppée.
Alors ça, je le laisse de côté, car nous allons en parler après. Et on va égrener les suivantes. La 12e promenade s'appelle, très humoristiquement, Avec de drôles de dames.
Oui, alors c'est celle-là. Alors ces drôles de dames, elles sont très bizarres, ces drôles de dames. Il y en a une, je l'ai fait par ordre chronologique, la première, elle est aimée par un général qui va devenir empereur. C'est Joséphine de Beauharnais.
Oui.
Et la Malmaison est une des premières maisons antiques, mais surtout pompéiennes, de France. Et si j'insiste là-dessus, c'est qu'on peut la visiter. Et que Joséphine, par goût pour l'antiquité peut-être, a meublé cette maison et son jardin avec des variétés de roses assez extraordinaires. Donc c'est la Malmaison. Et puis, il y en a une autre qui a été construite sur les ordres de Plomplon. Alors, vous ne connaissez pas Plomplon. Plomplon, c'est le cousin germain de Napoléon III. Il est donc l'héritier du trône. Mm. Hein, avant la naissance du fils de Napoléon III. Plomplon est un être assez extraordinaire. D'ailleurs, il y a 2 ans une exposition au musée d'Ajaccio sur lui. C'est un être extraordinaire. Il est très riche, il est très libéral, il parcourt le monde et il va tomber amoureux d'une dame. Et cette dame, c'est pas n'importe qui. Elle est toute jeune, elle s'appelle Rachel. Elle vient d'Europe centrale, elle arrive en France avec toute sa famille, ce sont des juifs miséreux, vous voulez, c'est pas un mot de français. Et donc son père lui apprend à mendier dans les rues, donc elle mendie, elle chante dans les rues, et une légende j'en suis pas sûr, raconte qu'un jour, quelqu'un l'entend chanter, et s'approche d'elle et lui demande qui elle est, qu'est-ce qu'elle est. Elle répond et ce quelqu'un lui donne un mot en disant « Tiens, tu vas aller trouver de ma part ce personnage. » Et ce quelqu'un, c'est Victor Hugo. Elle va trouver, alors là, elle va trouver un personnage, je ne vais pas entrer dans les détails, qui peu à peu va la dégrossir, va lui apprendre à jouer, va lui apprendre à parler. Alors elle est extrêmement maigre, elle a des yeux extraordinaires, et elle déclame la tragédie comme on ne l'avait jamais fait. Elle est antérieure à Sarah Bernhardt.
Donc c'est la fameuse Rachel. Hein.
C'est la fameuse Rachel. Elle devient célèbre, elle va partout, et là à Londres, elle rencontre deux cousins, le prince Napoléon, qui deviendra Napoléon III, et Plomplon. Et semble-t-il, ils vont se la partager. Semble-t-il. Et puis ensuite, voilà, elle va tomber amoureuse. Et lui va tomber amoureux, sauf que lui est possessif et elle est volage.
Donc voilà, c'est drôle de dame.
Voilà, il y en a d'autres.
Mais voilà, bon. Il y en a d'autres. Il faudra simplement prendre la peine si. De lire ces promenades insolites.
Il y en a quand même oui. Une autre dont je voudrais parler, qui est aimée par un roi, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est la fameuse Lola Montes.
Oui.
Lola Montes, qu'on va retrouver dans un film de Max Ophüls, hein, sous les traits de Martine Carole, qui est une actrice assez extraordinaire, qui va finir misérablement sa vie en Amérique. Mais enfin, bon. Donc, ce ne sont pas, ces drôles de dames ne sont pas si drôles que ça, il faut bien le dire.
Voilà. Et elles ont tout un rapport avec notre sujet, mais ça, ah, oui. Les lecteurs le oui, découvriront oui, en sûr, lisant votre sûr. Livre. On va s'arrêter, ménager une petite pause musicale. Et puis ensuite, on se retrouve pour parler plus précisément d'une de ces promenades vraiment très originales. À tout de suite.
Oh, oh, lambent flame. Oh, O force divine, O omnivorous power hail, none is the swifter to bring destruction. Yet carefree as a child, thou with wild breezes playing. The old tribe shall be no more because of thee, thou harvester that strips the soil for men. To sow new crops. Oh, 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 lambent flame. Oh, 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 force divine. Oh, omnivorous power.
Deuxième partie de l'émission Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, bien sûr. Émission qui s'intitule « Pompéi, Herculanum et les cités du Vésuve » pour reprendre le titre de ce livre qui sort tout prochainement, livre signé Claude Aziza, dont nous avons parlé en première partie. Et cette fois-ci, j'ai envie de me focaliser sur la promenade réservée aux fantômes d'Oplantis. Cette promenade qui est tout à fait originale parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas familier de la forme romanesque. Et là, justement, on y trouve un récit à la fois érudit, comme vous savez les faire, et complètement tourné vers la fiction et mélangeant aisément pas mal de genres. Et j'en veux pour preuve, non pas le premier paragraphe, il faudrait tout lire, mais je me contenterai du deuxième paragraphe de cette promenade. Et on y percevra donc un certain lyrisme, bien entendu. Dans le vieux parc solitaire, aujourd'hui délaissé, des ombres se sont glissées. Le crépuscule étend sur le grand jardin gris ses ailes de lémures et de chauves-souris. Le cœur des trépassés se lamente et ulule dans Oplantis éteint, ne brille plus Hercule. Mais soudain, le palais brille de tous ses feux. Poppée est sur le seuil, hautaine et souriante, la mort lui va si bien. Alors, j'arrête là la lecture, on pourrait continuer bien davantage, mais on a saisi le ton et on a saisi le propos. Vous avez voulu donc remettre en scène dans le royaume des ombres cette popée qui donne un festin, mais je vous laisse en parler bien mieux que moi.
Alors d'abord, je dois dire que le paragraphe que vous avez lu est de moi, mais il n'est pas que de moi. Il est de Verlaine.
Bien sûr.
Bien sûr, et il est de Victor Hugo.
Voilà.
Voilà. Et j'ai cédé.
Vous marchez quand même dans des quelques pas assez sûrs.
Mais tant qu'à faire, finalement, j'ai cédé. Et à un de mes travers, hein, et qu'on me reproche d'ailleurs assez souvent, c'est de faire des alexandrins
oui.
en prose. Donc ce sont des alexandrins.
Oui, tout à fait. Mais on les entend. Hein, oui, alors évidemment, ils surgissent.
Je change, bien sûr, au fur et à mesure. J'adapte à la situation. Voilà, donc...
Donc c'est à la fois... lyrique,
oui.
C'est historique parce qu'il y a des personnages historiques,
oui,
et on est aussi dans une certaine mesure dans du fantastique.
Voilà, c'est une soirée fantastique, alors ça, ça va bien, mais elle n'est pas que fantastique. Par exemple, vous avez pu voir que dans... si vous aviez continué de deux ou trois lignes, vous auriez pu voir la suite, qu'arrivent peu à peu les
gens... invités.
Les invités qui arrivent des enfers. Et alors, ils sont un petit peu désorientés parce qu'il y a eu une grève de la SNCF.
C'est-à-dire oui, j'ai beaucoup aimé ça.
C'est-à-dire de la société SNCF, la société des Nochers, Charon et fils.
Oui.
Alors, le Nocher, c'est celui qui fait passer. Donc, il y a une grève... Il est évident que...
Il y a étant des petits clins d'œil, des petits détournements.
Quand j'ai rédigé ça, nous étions à Noël 2024, et il y avait effectivement une grève de la SNCF. Donc voilà, ça c'est...
Et là aussi, on y voit à côté de la Villa de Poppée, on est en train d'expédier des amphores de vin et de garum. Enfin, il y a un mélange assez savoureux entre ce passé réel et ce décalage loufoque avec le présent.
Alors, c'est... ce qui m'a posé comme problème, c'était le choix des invités.
Alors, dites-nous quels étaient ces invités.
Vous savez que dans l'Antiquité, bien sûr, vous le savez aussi bien que moi, même mieux d'ailleurs, puisque vous êtes un spécialiste des manières de table, de la nourriture, beaucoup plus que moi, le nombre de convives doit être pas inférieur à 6 et pas inférieur à 3, les muses, et pas supérieur... et pas supérieur à 9, hein, voilà.
Un multiple de 3, grâces, oui, voilà.
Donc, voilà les invités, c'est ça qui est amusant.
Oui.
Les deux Plines.
Pline l'Ancien, Pline le Jeune.
Pline le Jeune, bon. Les deux Pétrones, ça c'est amusant.
Oui. Hein. Alors, qu'est-ce que vous appelez les deux Pétrones?
Puisque vous savez très bien qu'il y a... On hésite sur l'identité de l'auteur de cet article.
Oh, je crois qu'on n'hésite plus maintenant.
Non, on n'hésite plus. Bon, et alors...
Donc, l'arbitre des élégances, celui qu'on a cru être le Pétrone écrivain...
Semble-t-il, n'est pas celui-là. Alors, c'est intéressant parce que le Pétrone qu'on suppose être le véritable aurait été peut-être le secrétaire de Pline le Jeune. Donc, il est là avec son patron, d'une certaine façon. Alors, il fallait quand même que je trouve quelqu'un de Stabias.
Et donc on rappelle qu'Oplonti, c'est une cité qui se trouve à Stabiès.
À côté.
Oui.
Stabiès. Et donc, alors Stabiès est intéressant, puisque c'est là que semble-t-il, sur la plage, qui n'existe plus maintenant, Pline l'Ancien a trouvé la mort.
Maintenant, elle est recouverte, oui.
Et donc, elle aurait appartenu, une villa très célèbre, aurait appartenu à un affranchi de Claude, qui est très connu, hein, qui est Pallas. Et donc, qui aurait été empoisonné, là, c'est assez obscur, si on peut dire. Donc, il est venu. Et puis, resté Boscoréal, mais... Alors, Boscoréal, c'est assez intéressant, parce qu'on a découvert une dame que j'appelle la dame aux bijoux, avec tout un trésor, et en même temps, elle avait des pendentifs assez extraordinaires, ce qui permet... d'ailleurs, d'avoir des conversations entre cette dame épopée assez sur la mode et sur les bijoux. C'est intéressant parce que ça me permet de placer des choses qui est un graffiti concernant des bijoux que Poppée aurait offert à Vénus.
C'est-à-dire avec des pierres bien nommées.
C'est toujours très, très exact ce que je dis scientifiquement. Mais il y a la sauce autour, si j'ose dire, le garum autour. Donc... cette dame, dont le trésor qu'elle a trouvé subit des aventures extraordinaires, mais vraiment, parce qu'à chaque fois, c'est une aventure extraordinaire. Et puis,
c'est le fameux trésor de Boscoréal.
C'est le trésor de Boscoréal. Et puis ensuite, j'ai fait venir deux personnages. Tous ont existé, bien sûr. Il y a un personnage qui est un homme, dont on a retrouvé une momie. C'est la seule momie qu'on retrouve non seulement à Pompéi, mais pratiquement dans le monde romain, qui est un acteur.
Oui. Célèbre.
Peut-être un metteur en scène, oui. Un acteur célèbre, dont une inscription nous dit qu'il aurait aussi joué dans des tragédies grecques. Alors, ça ouvre des perspectives énormes.
Oui.
Ça veut dire, est-ce qu'on jouait en grec à Pompéi ? Vous voyez que chaque point ouvre des perspectives et puis...
Alors là, c'est pour faire sourire nos auditeurs. Ce point-là, qui s'appelle 9, vous avez chiffré tout ça, s'appelle les mimes de la mime.
Oui, alors les mimes de la mime, parce qu'il s'agit d'une... de quelqu'un dont on a des inscriptions, qui s'appelle Primogena, et qui est une femme, on ne sait pas trop si c'est une mime, mais en même temps, elle accorde ses faveurs à beaucoup de gens. On a plein de graffitis qui la concernent. Alors, on a un graffiti qui dit, qui montre qu'elle a fait une espèce de partouze, si j'ose dire, avec des gens. Donc, elle est là, et elle est en train de séduire Pline, enfin, elle essaye de séduire. Il y a Sénèque aussi, j'ai oublié,
oui.
Parce, dont on oublie que dans un ouvrage... À propos du tremblement de terre de 62 de Pompéi, il avait déjà eu l'intuition que peut-être le Vésuve n'était pas finalement un volcan mort.
Oui. Hein?
Donc voilà, tous ces gens sont là. Donc ouais, pratiquement Sénèque, les deux Pline, un des deux Pétrone, ça sont des gens, en tout cas Sénèque, Pline l'Ancien et le Pétrone connaissent parfaitement Pompéi. Hein? Donc
bien sûr.
On est en pays de connaissance, donc finalement tout le monde discute et chacun... j'ai pensé finalement au Décaméron, vous savez,
oui.
ces 10 personnages qui se réfugient pendant la peste et qui sont là et chacun raconte une histoire à son tour. Et alors là, sur chacun des personnages, je raconte une histoire. Par exemple, on a retrouvé la tête de Pline sans
oui.
savoir que c'est sa tête. Cette tête qu'on a retrouvée sur une plage,
mais peut-être bien qu'on se paye notre tête.
Voilà, c'est ça. On l'a perdue, on la retrouve au fond d'un musée
ouais.
à Rome, on la remet dans un musée de médecine. C'est-à-dire, chacun de ces personnages a une histoire extraordinaire.
Et un lien avec l'actualité d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, et en même temps, sont liés à Pompéi, et en même temps, sont liés aux cités du Vésuve, quoi, voilà.
Mais écoutez, comme le repas touche à sa fin avec ce point neuf là, cet invité neuf, à savoir Noella Primigenia, et ben nous, c'est aussi le dernier point que nous aurons évoqué avec vous, Claude Aziza. Et on souhaite beaucoup de chance à ce nouveau livre qui sort tout bientôt.
J'en accepte l'augure.
À bientôt.
À bientôt.